Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Axel Mauger.
Nous recevons aujourd'hui à Canal Académie un monsieur qui est le président des Palmes Académiques. Il s'agit de Jacques Treffel, Jacques-Jean-Pierre Treffel, qui a fait de belles études et qui est un scientifique et notamment agrégé de l'université en biologie. Alors, Jacques Treffel est un homme raffiné, un homme de, si vous voulez, de contact, un humanisme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui a surtout été un rassembleur. Membre de l'Académie d'architecture, membre correspondant de l'Institut, ancien délégué général adjoint de la Fondation nationale de la Cité internationale, il est aujourd'hui, et j'en passe, président national de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques depuis pas mal de temps, depuis 1973, et président de l'Association pour la Fondation de la MOPPA depuis 1996. Alors, nous avons vraiment le plaisir de vous recevoir, M. Jacques Treffel, et nous aimerions en savoir un petit peu plus sur la MOPPA, parce que nos auditeurs sont bien sûr en France et à l'étranger. C'est une très grande association, n'est-ce pas ?
C'est une grande association, en effet, car nous sommes nombreux, nous sommes 30 000, aussi bien dans les départements et territoires de la France, mais également, disons, à l'étranger. Et l'action, disons, que j'ai menée a consisté à créer des sections partout où il n'y en avait pas. Et je suis vraiment très heureux quand je regarde l'ensemble de ces sections. Je suis heureux de les voir vivre, se développer, prendre des initiatives. Et en même temps, tout à l'heure, vous parliez des chemins de l'avenir, s'efforcer de créer des choses nouvelles.
Et je constate que, pour moi-même membre de la MOPPA, j'ai pu constater depuis près d'une vingtaine d'années, pas tout à fait 20 ans, mais une évolution constante. Vous êtes tourné à la fois vers les humanités, vers le monde scientifique. Combien y a-t-il de sections, pour nos auditeurs, notamment étrangers, combien y a-t-il de sections à l'étranger, environ à peu près ?
Oui, il y en a une cinquantaine.
Ah là, c'est considérable. Mais quand vous parliez tout à l'heure de 30 000 membres des Palmes académiques, en fait, ce sont ceux qui sont inscrits aux Palmes.
Oui, bien entendu.
En fait, il y en a beaucoup plus qui sont décorés.
Oui, absolument. Il doit y en avoir dans les 80 000.
Ah oui, donc ce qui est considérable. Vous avez là vraiment un réseau qui est extrêmement
absolument
important et performant.
Et ce que je constate, disons, c'est que les Français, qui en général sont des professeurs, ou tout au moins des hommes et des femmes qui s'intéressent à la formation, ce que je constate, disons, c'est que les étrangers membres de l'Ordre des Palmes académiques sont très, très honorés de recevoir cette distinction. J'ai des témoignages d'étrangers, disons, qui m'ont rendu visite, ou quelquefois je les rencontre moi-même à l'étranger. On a l'impression, disons, qu'ils attachent à cette décoration une très grande importance.
Vous savez, je partage en tant que Français ce que disent les étrangers, tout à fait.
Et j'ajoute, disons, que en dehors des membres de l'éducation nationale, quand on donne les palmes académiques, et quand je décore, disons, quelqu'un qui n'appartient pas au personnel enseignant, un maire par exemple, un militaire, nous avons également un certain nombre d'officiers généraux et d'officiers tout simplement membres de l'ordre des palmes académiques, car ils se sont intéressés au cours de leur carrière à l'instruction des jeunes. Je suis toujours surpris par l'émotion qui les étreint au moment où l'on remet la décoration.
Vous savez, ça ne m'étonne pas, parce que je l'ai vécu moi-même. D'abord, ces palmes académiques, c'est un champ qui remonte à très loin dans notre histoire collective. Et c'est, je pense, c'est de la décoration peut-être la plus modeste, qui est une sorte de témoignage pour la modestie, pour ceux qui, dans l'ombre, pendant des années, regardez, j'ai commencé à l'université en 1970 ou 71, et j'ai eu les palmes en 1990. Donc 20 ans de travail pour les uns, pour les autres, pour tous ceux qui sont à l'étranger, souvent très isolés. Est-ce que j'ai remarqué, et je rejoins vraiment ce que vous venez de dire, Président, parce que ceux qui sont à l'étranger, nos amis étrangers, sont souvent très seuls.
Oui, je comprends. Mais alors, il est intéressant, disons, d'évoquer les remises, disons, de décoration. Nous en avons un exemple ici à l'Institut de France. Il y a maintenant quelques semaines, le ministre de l'Éducation nationale, M. de Robien, a remis au chancelier de l'Institut, M. de Bruyne, les insignes de commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Il avait invité un certain nombre de personnes, mais il s'en était tenu essentiellement aux personnalités institutionnelles. Là aussi, la joie et l'émotion de monsieur le chancelier faisaient plaisir à voir. Et il en a fait un véritable événement par les personnes qu'il avait invitées, par ce qu'il a dit. Il a dit également des choses très intéressantes sur la langue française. Et monsieur de Robien a parlé également de l'action qu'il menait sur le plan pédagogique, en particulier au niveau, disons, de l'école primaire. J'ajoute que, quelles que soient les croyances des uns et des autres, nous remettons, disons, ces palmes académiques avec beaucoup de ferveur. Nous avons, à l'intérieur des palmes académiques, des membres qui appartiennent à différents, je n'ose pas dire, différents partis politiques, nous ne faisons pas de politique, mais qui appartiennent à différentes philosophies ou à différentes croyances religieuses. Dans les palmes académiques, il y a des, ils ne sont pas nombreux, mais ne serait-ce que deux, c'est un exemple, nous avons des prêtres, nous avons deux prêtres qui sont présidents de la section des palmes académiques à laquelle ils appartiennent. Nous avons, bien entendu, aussi des diacres. Ce n'est pas rare. Et la semaine dernière, j'ai remis la cravate de commandeur au grand rabbin de France, à celui qui avait été non seulement rabbin, mais également professeur à l'école de langues orientales. Il y avait, cela se passait, disons, à la Sorbonne, dans le grand salon de la Sorbonne. Il y avait plus de 200 personnes. Et là aussi, j'ai été vraiment très heureux de voir toutes ces personnes qui appartenant à une croyance, je m'excuse de le dire, différente de la mienne, disons, s'intéresser aux palmes académiques comme ils l'ont fait. J'ajoute également qu'il y a un mois ou deux mois, nous avons reçu à la Sorbonne M. Salas Tétier. M. Salas Tétier, qui est un ancien ambassadeur du Liban au Maroc, qui est un poète, un écrivain, un homme assez extraordinaire, et lui aussi recevait la cravate de commandeur, et véritablement, il l'a fait avec toute la simplicité qui le caractérise et tout l'attachement, disons, qu'il manifeste à la langue française.
Moi, je partage tout à fait ce que vous dites, Président, et nous retrouvons, d'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent à la MOPPA de façon très forte, nous retrouvons de nombreux témoignages et de nombreux renseignements dans ce très très beau livre qui a été publié par la MOPPA et qui s'appelle « Si la MOPPA m'était comptée », que je recommande évidemment à tout le monde parce que c'est une mine de renseignements, je dirais presque comme l'abbé Bremond, comme vous parliez de prêtre tout à l'heure, que c'est une sorte, l'abbé Bremond disait d'un livre important, que c'est un cuirassé. Et d'une certaine façon, c'est un très joli cuirassé. Et dans le sommaire, nous retrouvons un historique formidable, plus toutes les activités de la MOPPA. Je cite rapidement les palmes académiques, création et développement de l'association, l'administration de la MOPPA, les membres de la MOPPA, le congrès annuel de la MOPPA, il y en a beaucoup depuis. Les activités culturelles de la MOPPA, qui sont très nombreuses, concerts, expositions, beaux-arts, éducation, histoire, géographie, je cite rapidement, les riches heures de la MOPPA, les actions pour la jeunesse et la francophonie. Et j'ai été surpris, je dois le dire, en tant que personne qui s'intéresse de près à la francophonie, de voir à quel point vous avez su, depuis une bonne quinzaine d'années, faire un travail considérable dans le domaine de la francophonie. Et ça, je tiens personnellement à vous en féliciter, car vous avez fait un travail vraiment tout à fait, de précision, si vous voulez. Pas trop de bruit, mais sans arrêt, comme quelqu'un qui avance vraiment sans se démonter. Par exemple, le don du livre, les très nombreux livres qui sont envoyés par bateau en Afrique, en Amérique du Sud. Madame Augier s'en occupe. C'est très important. Alors, je vois aussi dans ce sommaire les publications de la MOPA, l'orchestre, mon dictionnaire de la MOPA. Enfin, président, nous voyons ce livre qui est plus qu'instructif, il est beau en plus, c'est un très beau livre. La MOPA, c'est une association qui a des qualités extraordinaires, franchement.
Oui. Un conseiller d'État, il y a 2 ans environ, que je connais bien, et qui connaît lui-même, disons, les associations, me disait, c'est certainement, disons, la MOPA qui, sur le plan culturel, a le plus d'activités.
Je trouve que, si vous voulez, le plus d'informations nous pouvons avoir sur la MOPA, mieux c'est. Parce que, je vous dis encore une fois de plus, ayant assisté au congrès de Vienne, il n'y a pas très longtemps, le premier congrès européen des professeurs de français, lorsque j'ai parlé de la MOPA à une quinzaine de personnes, à peu près des Russes, Tchécoslovaques, Hongrois, Espagnols, Portugais, toujours, quasiment toujours, j'ai vu dans leurs yeux une sorte de petite pépite qui brillait, et d'intérêt et de souhait, on le sentait, pour des gens d'ailleurs de très grande qualité, de faire partie de notre grande famille. Alors ça, je tiens à vous le dire, parce que ce sont des témoignages précieux qui ne sont pas... C'est vraiment... Ça vient du cœur, si vous voulez. Ça, c'est quand même très important.
J'ajoute, disons que nous tenons chaque année un congrès annuel, qui réunit... c'est un congrès international, qui réunit, disons, des Français, mais également des étrangers. Le dernier congrès s'est tenu à Nancy... Au début de juin, ce fut un congrès qui réunissait à peu près 400 personnes. Et parmi ces personnes, il y avait une quinzaine de représentants des pays étrangers. Oui. 15 pays étrangers étaient représentés.
Est-ce que nous pouvons en parler dans quelques minutes?
Oui.
Parce que nous allons passer à la deuxième partie de notre
D'accord.
émission. Donc, je suis avec le président Treffel, le président des Palmes Académiques, et nous allons reprendre notre entretien dans quelques secondes. Nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui à nos chers auditeurs le président Jacques Treffel, monsieur Jacques Treffel, président des Palmes Académies et président de l'association pour la fondation de la MOPA depuis 1996, cela pour la fondation de la MOPA. Nous reprenons donc notre entretien avec lui. Monsieur le président Treffel, je crois que nous étions en train de parler du congrès de Nancy.
Oui.
Alors, je vous donne la parole. Je vous cède la parole.
Alors, chaque année, nous organisons un congrès international qui réunit en général 350 à 400 personnes. Il a lieu toujours à Pentecôte, ceci depuis la fondation, disons, de l'association. Je me suis efforcé, disons, de respecter cette date qui avait été choisie par ceux qui m'ont précédé pour éviter toute discussion, et ça marche fort bien. Alors, les trois derniers congrès se sont tenus l'un à Lille, dans le département du Nord, l'autre à Grenoble, dans l'Isère, et le troisième à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. En général, ces congrès, d'abord, sont honorés par la visite de personnalités, des personnalités institutionnelles, qui, en général, par les palmes académiques, parlent de leur ville, de leur département. Et nous avons eu la chance de recevoir, dans le cadre de ce congrès, le président du Conseil général, le monsieur Rossineau, qui est le maire de Nancy, le recteur de Nancy, qui est monsieur Leroy, et en même temps le préfet du département.
Donc les hautes autorités.
Les hautes autorités. Ils se sont exprimés, ils ont fait des discours. Ces discours, vous les retrouverez dans le compte-rendu que nous faisons de ce congrès, vous les retrouverez dans la revue de la MOPA.
Une très belle revue dont nous reparlerons avec Madame Treffel,
si
vous-même, bien entendu.
Absolument.
Bien entendu.
Alors, on a pris un certain nombre de décisions, des décisions, disons, qui font partie de la vie de l'association. Toute association a une vie, toute association, disons, à des problèmes liés aux cotisations, aux abonnements, etc. Mais en dehors de ça, parmi les décisions ou les résolutions les plus importantes qui ont été prises, il y en a une à laquelle je suis très attaché. Le président de la section de Norvège, M. Tobiasen, que vous avez rencontré
à Vienne, tout à fait.
M. Tobiasen nous a fait une communication très intéressante, en commun d'ailleurs avec le président des professeurs de français, de la Fédération des professeurs de français.
Oui, tout à fait.
Et cette proposition concernait les raisons pour lesquelles, dans un pays étranger, les enfants qui doivent choisir une langue vivante choisissent le français. Les enfants ou leur famille. Et par conséquent, cette proposition a été débattue et nous sommes en train actuellement, c'est déjà parti, de faire une enquête où nous interrogeons nos correspondants à l'étranger et en même temps les équipes qui les entourent pour connaître les véritables raisons.
Ah, très intéressant. Ça.
Oui,
c'est très
ça peut être des documents manuscrits, ça peut être des documents iconographiques, ça peut être des documents audiovisuels. On est en train de nous le dire et déjà les réponses arrivent. Nous avons interrogé à peu près une soixantaine de sections étrangères.
Oui, c'est très...
Alors,
les raisons doivent être diverses. Hein.
Les raisons sont tout à fait diverses.
Oui.
Les Italiens, par exemple, ont des idées très originales. Les Italiens se contentent, disons, de remettre un diplôme au lauréat des concours de français que l'on fait dans les lycées italiens, eh bien, ces diplômes que l'on remettrait solennellement sont très recherchés.
Ah, oui.
Avoir une certification d'apprentissage de la langue française. Mais il y a également d'autres raisons que nous trouvons ailleurs.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi de profiter de cette enquête pour poser des questions aux parents et savoir pourquoi les parents ont aiguillé leurs enfants vers le français, ce qui nous permettrait peut-être justement de cibler d'autres familles, ça serait peut-être une idée, ça.
Oui, mais cette proposition, disons, que vous faites, est entrée déjà dans la réalité, car nous avons élaboré un questionnaire que nous avons envoyé au président, disons, des sections étrangères, pour qu'il réponde à des questions telles que vous venez de les évoquer vous-même.
Voilà, tout à fait. Parce que vous vous souvenez, dans les élites argentines,
oui.
Vous aviez fait la préface de ce livre, dans les élites argentines, il y avait des raisons qui étaient vraiment merveilleuses.
Absolument.
Des gens qui
se tournaient vers le souvenir. Français. J'en ai le souvenir.
Alors, maintenant, peut-être pourrions-nous parler aussi de la fondation de la MOPA, avant de parler des chemins de l'avenir. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, à moins que vous ayez encore...
Oui, à propos, je voudrais dire quand même, si on sait en ce congrès de Nancy, et illustrer mes paroles, parmi ceux qui viennent nous rendre visite, il y a un certain nombre de représentants des pays européens. L'Allemagne est fortement représentée, la Belgique, le Québec. Tous ces pays, disons, qui... quelquefois, disons, sont très attachés à la langue française parce que, à quelques moments de leur histoire, on essaie de la leur prendre, cette langue française.
Vrai, ça, c'est tout à fait vrai.
Et là aussi, il y avait une forte représentation du Québec, mais nous recevons également des professeurs qui représentent la Corée du Sud.
Ah, oui.
Nous recevons également des Indiens.
Et bien même, au-delà de l'Europe.
Absolument. Et je suis persuadé que au congrès prochain, il y aura également des représentants de la Chine.
Ah, très bien.
Des représentants de la Chine.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion au congrès de Vienne, président, de rencontrer une dame chinoise d'une grande université. Et je dois dire que son français m'a un peu étonné parce que lors d'un précédent voyage en Chine, j'avais trouvé que le français de certaines personnes était agréable, mais n'était pas aussi excellent que celui de cette dame que j'ai rencontrée, si vous voulez. Donc, il y a là vraiment une réalité mondiale pour le français. Que la MOPA, je veux dire, vous avez fait un travail, et ça je reviens là-dessus, vous avez fait un travail depuis de longue haleine, dans une période qui n'était pas toujours favorable hein, aux Français, je me souviens des années 90 qui étaient souvent difficiles, et puis le 21e siècle nous ouvre des perspectives qui sont importantes, et notamment, je vais revenir tout de suite, sur cette fameuse donation de fondation, je veux dire pas donation, mais enfin, il faut, dans une fondation, il faut des donations, mais la fondation de la MOPA. Alors, qu'est-ce que c'est que la fondation de la MOPA, président ?
Alors, pour le moment, disons, c'est une association, disons, de la fondation. Et je pense que dans les mois qui viennent, ce sera une véritable fondation. Car vous savez qu'il y a des conditions financières.
Ah oui.
Des conditions financières pour créer une fondation. J'ajoute que c'est une très bonne chose d'avoir imposé un certain nombre de conditions, car il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui veulent créer des fondations. Là aussi, il est nécessaire de sélectionner les associations qui ont droit au titre de fondation.
Il faut que ça soit bien encadré.
Absolument. Voilà. Il faut que ce soit bien encadré. Alors, là aussi, il appartient au ministère de l'Intérieur de donner son accord à la création d'une fondation. Nous sommes en relation avec différentes personnes du ministère de l'Intérieur, avec également des conseillers d'État pour créer cette fondation, et j'espère qu'elle le sera dans les mois qui viennent.
Est-ce que vous avez le droit d'accepter des dons de personnalités, de personnes étrangères ?
Oui.
C'est donc, mais alors, vous les recevez à Paris ou vous les recevez dans les sections étrangères ?
Il y a les deux.
Il y a les deux.
Il y a les deux. Il y a les deux.
Parce que c'est très important, ce point est très important, car lors de plusieurs de mes voyages, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui connaissaient d'autres personnes susceptibles, soucieuses d'offrir justement, qui aimeraient aider la langue française, etc. Et ça, c'était assez fréquent. Je me souviens en Argentine, je me souviens à Hong Kong et dans d'autres voyages où il y avait, je dirais, une sorte de réseau prêt à faire un geste, mais un geste même important, mais ils ne savaient pas comment le faire, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose à creuser.
Absolument. Alors, ce que je dois dire, disons, c'est que nous ne recevons pas beaucoup, disons, d'aide venant de l'étranger. D'abord parce qu'on ne les a pas sollicités. Il y a quand même, parmi les pays étrangers qui adhèrent à la MOPA, un certain nombre de pays qui ont des difficultés financières. Il y a un certain nombre de pays pauvres. Tant et si bien que nous ne souhaitons pas qu'ils nous envoient la cotisation, nous la leur laissons cette cotisation, de manière à ce qu'ils puissent organiser sur place un certain nombre de manifestations avec leur propre argent. Donc on a été très prudents à cause en particulier de ces pays d'Afrique et quelques-uns d'Asie, qui ont des difficultés à vivre.
Oui, c'est parce que la MOPA, et ça, je vous arrête juste un petit instant, la MOPA, c'est, ne l'oublions pas, l'abécédaire fait par Jean Pruvot, qui est magnifique dans « Si la MOPA m'était comptée », la MOPA, c'est toutes les lettres de l'alphabet, comme A, altruisme, B, bénévole, C, cordial, D, délicatesse, E, éducation, F, familial, G, généreux, je m'arrête là. Mais si vous voulez, c'est vrai que la MOPA, et là je me suis permis de vous interrompre, mais pour la bonne cause, que la MOPA, c'est vraiment le cœur qui parle avant, je dirais presque, la raison, même si la raison est là, Président. Je vous laisse continuer, bien sûr.
Alors, comment vit, disons, la Fondation ? La Fondation, disons, bénéficie de subventions. De subventions qui viennent des conseils régionaux, des conseils généraux, d'un certain nombre de villes, en général de quelques collectivités territoriales. Mais nous recevons également des crédits qui viennent de quelques grandes entreprises. Nous recevons de l'argent également d'un certain nombre de membres qui, à titre individuel, souhaitent faire un don à la Fondation. Et ces dons, disons, qui sont versés par les individuels sont relativement importants, ce qui prouve bien, disons, leur attachement à l'association.
C'est beau, ça, c'est la générosité.
Et en même temps, c'est pour nous un très grand encouragement. Sur 30 000, nous avons à peu près de 2 000 personnes qui font un don.
C'est considérable.
C'est considérable.
C'est considérable.
C'est considérable.
Vous vous rendez compte, c'est pas loin de 10%, pas tout à fait, mais c'est considérable.
C'est une grande satisfaction que nous avons de ce côté-là.
Vous voyez, et je pense que ça, c'est une satisfaction. Cela mérite d'être dit, vous le dites. Cela mérite d'être encouragé. Et justement, je pense qu'à l'étranger, vous avez des gens, dans les pays évidemment qui ont les moyens, il y a des gens qui seraient très heureux d'offrir quelque chose qui irait non pas à la France, mais à d'autres pays nécessiteux. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous Français qui bénéficierions, si vous voulez, mais plutôt la jeunesse du monde entier qui bénéficierait de cela. Donc ça, bah, bravo Président, c'est un très beau, c'est quelque chose de très bien, vous savez.
Absolument. Alors, la Fondation, quelles sont...
Nous allons peut-être nous arrêter une petite seconde avant de reprendre la Fondation et de continuer à parler de la Fondation et les chemins de l'avenir. Continuons cet entretien avec le président Jacques Treffel, qui est le président national de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques depuis 1973 et qui est aussi, depuis un certain temps, le président de l'Association pour la Fondation de la MOPA et ce depuis 1996. Cher président, l'Institut et la radio de l'Institut est extrêmement heureuse de vous recevoir ce matin et nous allons continuer ensemble pour évoquer cette très belle fondation que vous avez créée depuis une dizaine d'années.
Alors, nous avons en effet, non pas encore tout à fait une fondation, mais une association de la fondation, je me permets d'insister. Dans quelques mois, ce sera une fondation. Ceci parce
donc
que...
Donc en 2007.
En 2007, ce sera une fondation. Mais déjà, cette association de la Fondation, que nous appelons d'ailleurs entre nous la Fondation, nous rend de très grands services. Cette Fondation, qui dispose de subventions venant des uns ou des autres, qui viennent soit des collectivités locales, soit de l'État, plusieurs ministères, disons, nous financent, aussi bien le ministère de l'Éducation nationale que le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Culture.
Ouais, c'est important.
C'est important. Nous recevons également des dons individuels qui sont relativement importants.
Donc, alors, vous disiez tout à l'heure, 2000 personnes, absolument, membres de la MOPA, donnent quelque chose. C'est quand même tout à fait exceptionnel.
Hein. Absolument. Et alors, quel est le rôle, disons, de la Fondation ? En ce qui concerne cette Fondation, nous distribuons d'abord des bourses. Des bourses à des jeunes de chez nous.
Combien en 2005, à peu près
Une vingtaine.
Oui, on se quitte.
Une vingtaine. Des jeunes, disons, qui veulent faire un voyage, faire une étude particulière sur l'économie d'un pays, sur la société d'un pays étranger, qui souhaitent voir également des problèmes scientifiques, des problèmes de recherche. Donc nous leur donnons en général un billet d'avion et en même temps, chaque année, nous donnons une vingtaine d'entre eux, qui sont en général des étudiants des universités, un petit bagage financier,
un petit pécule
qui leur permet, disons, de vivre pendant un mois environ dans le pays étranger.
Ce sont plutôt des étudiants français ou des étudiants étrangers, ou les deux ?
Les deux, absolument. Mais surtout des étudiants français.
Parfait.
Alors, en dehors des bourses, nous avons organisé également un certain nombre de concours. Concours de la langue française, c'est un concours important. Concours de la jeune nouvelle, concours de poésie, concours sur l'éloquence.
Oui, c'est très, très intéressant, oui. Et important, ça, l'éloquence.
Oui, concours également sur l'Europe. Alors, par exemple, si l'on prend le concours sur l'Europe, je ne dis pas, disons, que tous les concours, disons, sont financés par des moyens extérieurs, mais la Fondation, d'abord, finance un certain nombre de ces concours, mais également, si nous prenons l'exemple de l'Europe, nous recevons une aide de l'Assemblée européenne qui siège à Strasbourg.
Ah oui,
nous recevons également une aide de la ville de Strasbourg. Et par conséquent, là, ce n'est pas seulement un individuel, un garçon, disons, seul, qui est récompensé, mais il arrive quelquefois, ce sont des équipes dans les lycées qui sont récompensées avec ce concours de l'Europe.
Donc c'est important.
En ce qui concerne, par exemple, le concours sur l'éloquence, il est né dans le département du Nord, ou plus précisément à Valenciennes. Là, ce sont ou bien des élèves de classe préparatoire aux grandes écoles, ou bien, disons, des élèves d'université qui viennent devant un jury montrer quel est leur savoir-faire.
Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes qui peuvent participer chaque année à tous ces concours, à ce concours d'éloquence?
Oui.
Vous diriez quoi comme chiffre?
300.
Donc des étudiants très sélectionnés quand même.
Non pas pour le concours d'éloquence, une vingtaine.
Hein. Oui, une vingtaine pour le
mais
concours.
L'ensemble des concours,
300 oui, personnes.
300 personnes.
Ce qui est tout à fait, mais déjà des gens...
300 personnes. Alors, ce qui est intéressant, disons, avec ce concours sur l'éloquence de Valenciennes, c'est que le jury n'est pas seulement composé d'enseignants ou de personnes ayant des attaches avec l'éducation nationale. On a introduit dans ce jury des avocats, des magistrats, le procureur général de Valenciennes, disons, le procureur de Valenciennes participe au jury, disons, de ce concours, et par conséquent, cela apporte une garantie d'objectivité auquel nous tenons beaucoup.
C'est beaucoup plus ouvert et transparent, semble-t-il, que certains prix littéraires, Président.
Oui, mais en ce qui concerne les prix, vous avez raison d'évoquer les prix littéraires, ce que j'ai constaté, en ce qui concerne, et vous êtes orfèvre en la matière, ce que j'ai constaté, disons, dans la distribution des prix littéraires, dans la désignation des prix littéraires, c'est que presque tous ces prix littéraires ont été écrits par des hommes ou des femmes qui, à l'origine, avaient une nationalité extérieure, nationalité étrangère. Ceci est valable, disons, pour l'Américain là, qui bénéficie, disons, du prix Goncourt, c'est valable également pour un Congolais, c'est valable également pour d'autres.
C'est un signe de grande ouverture de notre
Absolument.
Pays qui, dans certains secteurs, a l'air parfois un petit peu, vous savez, je dirais la République des déclinologues. Et au fond, c'est très curieux comme il y a dans notre pays, et l'AMOPA est un exemple d'ouverture formidable, je trouve, c'est ce côté à la fois parfois un peu refermé, au contraire, parfois très ouvert.
Très ouvert.
C'est très... Et l'Académie, je ferai remarquer, si vous me permettez cette petite digression, que l'Académie française est tournée vers la francophonie de façon très étonnante, contrairement à notre université, qui me semble l'être moins.
C'est quand même
intéressant. Je vous laisse...
François Cheng.
Tout à fait.
D'origine chinoise.
Est à l'Académie française. Comme Hector Bianchetti.
Absolument.
Comme Asia Djebar.
Absolument.
Etc. Président, comme il nous reste, nous pourrons faire d'autres émissions, bien sûr, ensemble.
Je veux également parler du don du livre.
Ah, très, très bien.
Oui. La Fondation, disons, participe très largement au don du livre. De quoi s'agit-il? Il s'agit, d'abord, nous sommes très attachés à la francophonie.
Ça, je le sais.
Et par conséquent, nous apportons notre pierre à ce monument, disons, que représente la francophonie.
C'est considérable.
Et nous faisons, disons, ce que nous pouvons de ce côté-là.
Tout à fait.
Mais il y a à côté de nous d'autres associations dont le rôle est précisément d'assurer la défense de la langue française et également la promotion de cette langue française. Mais nous sommes là avec notre manière de voir, et en particulier avec cette opération qui s'appelle le don du livre. De quoi s'agit-il ? Partout, disons, dans tous les pays où on s'intéresse à l'enseignement du français, il y a des pays riches, il y a des pays pauvres. Et par conséquent, nous aidons les pays pauvres. Partout où il y a un lieu où on s'efforce de faire l'apprentissage du français, nous sommes là pour aider sur le plan matériel. C'est de cette manière que nous envoyons chaque année à peu près une douzaine de tonnes.
12 tonnes de livres
à différents pays. Et ceci avec l'aide de la Marine nationale et avec l'aide de la Jeanne d'Arc.
Ah oui, bateau emblématique.
Absolument, qui est un porte-hélicoptère.
Ah ouais.
Et cette Jeanne d'Arc...
12 tonnes, hein, il faut quand même dire ça aux auditeurs étrangers. 12 tonnes de livres sont offertes par la MOPA, sont transportées par la Jeanne d'Arc.
Oui, alors en ce qui nous concerne, disons, ces livres viennent des maisons d'édition qui, tantôt, disons, nous font bénéficier d'un don, tantôt, disons, nous permettent de les acquérir au prix coûtant. Et parmi ces livres, nous envoyons, vous parliez tout à l'heure de Jean Pruvot, beaucoup de dictionnaires. Car dans ces centres de formation et en même temps d'apprentissage à l'enseignement du français, véritablement, le livre le plus élémentaire qu'il convient de donner, c'est un dictionnaire. Et nous distribuons beaucoup de dictionnaires.
Ça, c'est très bien, parce que la demande est énorme.
Mais également des ouvrages de littérature française, nous en envoyons beaucoup. Donc, je suis très attaché, disons, à ce don du livre, car on réalise là quelque chose d'extraordinaire et de très valable.
Je crois que ça, vous avez raison de faire cela, parce que c'est la demande est très forte, comme je le disais il y a un instant. Vraiment, les étudiants, les personnes trouvaient le mot exact. Par exemple, je voyais l'autre jour dans un musée, custode. Qu'est-ce que c'est qu'une custode ? Alors, donc, on va chercher tout de suite pour se rappeler exactement la signification précise. Et puis, vous avez raison aussi, il ne faudrait pas oublier les derniers livres de nos bons écrivains, les plus récents. Je pense par exemple à un monsieur comme Daniel Pennac, qui est intéressant, comme Eric Orsenna, qui est des écrivains les plus, je dirais, les plus enthousiastes de notre génération, ou de ces plus jeunes générations, qui est très intéressant, je trouve. Et un homme qui d'ailleurs, membre de l'Académie française, je ne le connais pas personnellement, mais il est membre de l'Académie française. Donc, aujourd'hui, donc, président, nous avons parlé notamment de la fondation de la MOPA dans cette troisième émission, et du don du livre. Il va sans dire qu'une prochaine fois, nous parlerons notamment des chemins de l'avenir de cette très belle association des Palmes Académiques. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de vous entretenir, de nous présenter la MOPA, qui est une des plus belles associations françaises, qui est au service du dialogue des cultures. Et c'est une association, je dois le dire moi personnellement, j'ai vu à l'œuvre de nombreux militants, si vous voulez, de la MOPA, une association où le cœur, la générosité, l'enthousiasme, l'éducation sont vraiment là au service de tous. Merci beaucoup. Thank you.